Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 17 mars 2016. Anne Alberson et John Lyndon en votre compagnie. Au sommaire ce matin...
Présidentielle au Niger, le second tour est prévu ce dimanche 20 mars. Les imperfections constatées au premier tour seront-elles corrigées? La CENI rassure.
Nous avons très tôt reconnu qu'il y a eu des dysfonctionnements par rapport au premier tour. C'est pour ça que nous avons pris les dispositions pour pallier à ces insuffisances.
Nouvelle accusation de corruption au Nigeria. L'ancien chef d'état-major des armées se serait acheté une maison pour 5,5 millions de dollars avec les deniers publics.
Ici à Washington, le métro reprend du service. Hier, plus de 700 000 personnes ont été privées de ce moyen de transport. La faute aux équipements électriques en mauvais état, source potentielle d'incendie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
La France a livré hier à la Côte d'Ivoire plusieurs lots de médicaments et de matériel médical d'urgence d'une valeur de 30 000 euros pour la prise en charge des blessés de l'attaque djihadiste de Grand Bassam dimanche. Une attaque qui a fait 19 morts et 24 blessés, lesquels sont actuellement pris en charge dans différents hôpitaux de la capitale économique, Abidjan, a expliqué Raymonde Kofi Goudou, ministre ivoirienne de la Santé. Au total, 150 millions de francs CFA, environ 229 000 euros de matériel médical, vont être livrés par la France.
Au Nigeria, nouvelle accusation de corruption contre l'ancien chef d'état-major des armées, actuellement devant la barre. Il se serait acheté une maison pour 5,5 millions de dollars avec de l'argent destiné à l'armée de l'air. Chérubin Dorsil.
Alex Badé, 59 ans, est actuellement jugé devant une haute cour fédérale à Abuja dans le cadre d'une affaire de détournement présumée de 20 millions de dollars de l'armée de l'air nigériane en 2013. Un de ses anciens collaborateurs, Salisu Abdullahi Yushao, ancien directeur financier au moment des faits, a déclaré qu'il échangeait 558 200 000 naira en dollars chaque mois selon les instructions de son chef. L'argent détourné provenait des fonds destinés au paiement mensuel des salaires du personnel de l'armée de l'air. Yushao, qui a pris sa retraite en 2013, a affirmé avoir acheté des propriétés avec cet argent pour M. Badé et son fils, et notamment une maison d'une valeur estimée à 1,1 milliard de naira, soit 5,5 millions de dollars, dans un quartier chic d'Abuja. Le juge Okon Abang a placé Alex Badé en détention provisoire et a journé l'affaire jusqu'au 23 mars. Arrêté fin janvier dans la vaste campagne anticorruption du président Muhammadu Buhari, l'ancien chef d'état-major des armées a plaidé non coupable la semaine dernière aux 10 chefs d'accusation de fraude, abus de confiance et blanchiment d'argent.
Le résultat de l'élection présidentielle de dimanche au Congo n'est pas du tout connu d'avance, a assuré mercredi Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement de Brazzaville, qui n'en a pas moins prédit la victoire du président Denis Sassou Nguesso. Le point avec Nani Talani.
D'après Thierry Mungala, le résultat de l'élection n'est pas connu d'avance parce qu'il faut laisser le peuple s'exprimer dans sa sagesse. Le 20 mars, le peuple va se prononcer librement, sereinement et de façon apaisée. C'est un match qui va se jouer sur le terrain et dont chacun devrait accepter les résultats, a-t-il dit. Le porte-parole du gouvernement a fustigé le comportement de certains candidats de l'opposition qui soutiennent qu'une victoire de M. Sassou Nguesso à l'issue du premier tour relèverait de la tricherie. Il estime qu'une telle attitude est une préparation des esprits à la violence et à l'insurrection. Pour lui, le président sortant est le seul candidat à battre une campagne digne de ce nom. Sassou Nguesso a promis à ses partisans de l'emporter dès le premier tour. Craignant des fraudes, 5 de ses rivaux à la présidentielle du 20 mars ont mis sur pied leur propre commission électorale pour compiler et proclamer leurs propres résultats.
Les avocats de 2 militants arrêtés en mars 2015 à Kinshasa se sont déclarés hier soir embarrassés par le silence de la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo qui était censée rendre sa décision sur leur demande de remise en liberté. La loi prévoit que la décision en matière de mise en liberté provisoire soit rendue dans les 48 heures en audience publique. Mais dans le dossier qui concerne Yves Makwambala et Fred Bouma, on est au-delà de 8 jours. Nous sommes dans l'embarras. Nous ne comprenons pas ce qui se passe, a déclaré à l'AFP Maître Venance Kalenga, un de leurs avocats. Monsieur Bouma et Makwambala, tous âgés d'une vingtaine d'années, sont poursuivis par la justice congolaise pour complot contre le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des sanctions disciplinaires, mais pas de poursuites judiciaires pour une dizaine de militaires américains dont les erreurs ont mené au bombardement d'un hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz, en Afghanistan, en 2015. Un raid qui avait fait 42 morts. Les précisions de Michel Joseph.
Les mesures qui n'ont pas été rendues publiques découlent du rapport d'enquête sur l'attaque et dont une version partiellement expurgée pourrait être publiée dans les prochains jours. Le 3 octobre 2015, des hélicoptères de combat de l'armée américaine avaient pris pour cible un hôpital administré par l'ONG Médecins sans frontières, alors qu'ils aident les troupes afghanes à reprendre le contrôle de la ville de Kunduz. Des attaques incessantes avaient dénoncé Médecins sans frontières, qui a exigé une enquête internationale. Le général John Campbell, chef militaire américain en Afghanistan à l'époque des faits, avait été contraint de démissionner. C'était un accident tragique, mais évitable, causé essentiellement par l'erreur humaine, avait-il expliqué. Les punitions infligées en rapport avec ce drame sont essentiellement administratives, mais certaines, comme les lettres de réprimande, peuvent bloquer toute chance de promotion. Les personnes sanctionnées incluent des officiers et des militaires du rang, mais pas de généraux.
Les États-Unis ont prévenu mercredi qu'ils ne reconnaîtraient pas la création par les groupes kurdes de Syrie d'une région unifiée et autonome dans les zones qu'ils contrôlent. C'est quelque chose qui doit être discuté et accepté par toutes les parties concernées à Genève et ensuite par le peuple syrien lui-même, a précisé Mark Turner, porte-parole du département d'État à la presse, faisant référence au pourparlers de paix en cours actuellement en Suisse entre représentants du régime de Bachar al-Assad et des groupes d'opposition sous médiation de l'ONU.
Et à ce sujet, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie doit rencontrer aujourd'hui la principale formation d'opposition qui veut être le seul interlocuteur de l'ONU pour parler de paix à Genève, alors qu'un groupe rival proche de Moscou réclame d'y être associé. Cette délégation, dite groupe de Moscou, qui inclut également deux représentants du groupe du Caire, a été reçue pour la première fois mercredi soir par l'émissaire de l'ONU. Elle est vivement contestée par l'opposition officielle, réunie au sein du Haut Comité des négociations qui rassemble des représentants politiques et des groupes armés et dénie toute légitimité au groupe de Moscou sur le terrain. Stéphane de Mistura, seul en mesure de préciser le statut exact de cette délégation entre consultant ou négociateur, ne s'est pas présenté devant la presse.
La Corée du Nord a demandé mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir pour dénoncer les manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis. Dans une lettre au Conseil, le représentant permanent nord-coréen Yaz Song Nam affirme que ces manœuvres annuelles constituent une grave menace contre la Corée du Nord ainsi que contre la paix et la sécurité internationale qui méritent un examen urgent par le Conseil de sécurité. De précédentes demandes nord-coréennes en ce sens sont toutes restées lettres mortes.
Au Brésil, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été nommé à un poste clé au sein du gouvernement par son héritière politique Dilma Rousseff. La présidente du Brésil est embourbée dans un scandale de corruption qui menace de la faire chuter. Félix Yepassi-Zembro.
Lula est nommé ministre d'État, chef de la Maison civile. Un poste très élevé dans la hiérarchie gouvernementale, à cheval entre chef de cabinet et premier ministre. Dilma Rousseff avait été elle-même chef de cabinet de Lula du temps où il était président avant de lui succéder en 2010. L'ancien président aura pour mission de tenter d'éloigner la menace de destitution qui pèse sur Mme Rousseff, dont la coalition parlementaire est au bord de l'implosion. Il assumera officiellement ses fonctions mardi. Le juge chargé de l'enquête sur le scandale autour du géant pétrolier brésilien Petrobras le soupçonne de corruption et blanchiment d'argent. L'ancien président a déjà été entendu pendant des heures par les enquêteurs. Sa prise de fonction lui permet d'échapper à la menace d'un placement en détention. Les ministres brésiliens ne peuvent répondre pénalement de leurs actes que devant le tribunal suprême fédéral. C'est ce même tribunal qui fixe les règles de la procédure de destitution lancé en décembre contre la présidente brésilienne.
Et soudainement privés de métro à cause d'une inspection d'urgence, des centaines de milliers d'habitants de Washington sont allés travailler à pied ou à vélo hier, tandis que les automobilistes se retrouvaient coincés dans d'inévitables bouchons. Le métro de la capitale américaine, le deuxième plus important du pays après celui de New York, car utilisé par environ 700 000 personnes quotidiennement, était fermé depuis mardi soir jusqu'à ce matin afin de procéder à une inspection de sécurité des équipements électriques menacés d'incendie. Après inspection de 80% du réseau, 26 zones à problème ont été identifiées. Les responsables de la société gestionnaire du métro ont confirmé mercredi soir que les rames du métro repartiraient bien comme prévu ce jeudi.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Le fromager Bel, numéro 3 mondial, a décidé d'étendre ses activités à Abidjan en Côte d'Ivoire. Entre 4 millions et 5 millions d'euros, c'est le coût d'implantation d'une mini-usine conçue à partir de 14 containers et démontable très rapidement. Cette usine fonctionne à partir de lait importé avec une vingtaine de personnes. Elle a la capacité de produire 100 000 portions de vache qui rit par jour. Ce site de production est le premier du groupe au sud du Sahara. Flambée des prix au Nigeria, le Bureau national des statistiques affirme que les Nigériens ont payé en février dernier 1,76% de plus sur les biens et services qu'en janvier 2016. Conséquence, l'inflation est passée de 9,6% à 11,4%. Dans son dernier rapport, ce bureau montre que l'indice global a augmenté à un rythme plus rapide de 2,3%, surtout enregistré dans presque tous les grands établissements, à l'exception des restaurants et hôtels. De même, les pommes de terre, l'igname et d'autres tubercules, la confiture, le chocolat ainsi que le sucre ont connu un rythme plus lent. La Réserve fédérale américaine laisse les taux d'intérêt inchangés ce mercredi à l'issue d'une réunion monétaire, tout en redisant clairement qu'un relèvement reste d'actualité plus tard dans l'année. En décembre dernier, la Fed avait porté les taux d'intérêt de 0,25% à 0,50% et marqué la fin de 7 années de taux zéro.
C'était la Minute Éco. Merci Arzuma. Et nous voici en sport, nous accueillons Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour John.
La FIFA accuse l'Afrique du Sud de corruption pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde en 2010.
L'instance internationale a publiquement accusé l'Afrique du Sud d'avoir versé 10 millions de dollars de pots de vin. Ces sommes auraient notamment été versées à Jack Warner, ancien vice-président de la FIFA, banni, vous le savez, à vie de toute activité liée au football. La FIFA a aussi saisi la justice américaine pour récupérer des dizaines de millions de dollars auprès de ses anciens dirigeants, poursuivis aux États-Unis et accusés d'avoir détourné au total plus de 200 millions de dollars, selon des documents rendus publics. Au total, ce sont 39 anciens dirigeants du football mondial qui sont visés par cette requête. Allez John, on va parler de la Ligue des champions en Europe, la suite des huitièmes de finale.
Oui Nicolas, le Bayern de Munich a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant la Juventus de Turin, 4-2 au terme d'un match aussi fou qu'à l'aller où les deux équipes avaient fait jeu égal, 2-2. Et puis Nicolas, je souligne que dans l'autre rencontre disputée hier, Arsenal n'avait que 3,2% de chance de remonter son handicap de 0-2 à l'aller à Londres. Un but précoce de Neymar intervenu à la 18e minute a vite tué le suspense et le Barça, malgré une belle réaction des Gunners, s'est offert une 9e qualification consécutive pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Score de la partie, 3-1.
Enfin, avec vous la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, courte victoire de Cleveland face à Dallas, 99-98. Oklahoma écrase Boston, 130-109. Atlanta l'emporte face à Détroit, 118-114. Clippers, 122. Houston, 106. New Orleans domine Sacramento, 123-108. Chicago s'incline face à Washington, 96-117.
Cette semaine dans Vous et nous, le village Kimbok à Abidjan, le comédien de stand-up Tug à Conakry, la mode et la beauté de la rubrique Tendance nous montre, si besoin était, à quel point le continent est une pépinière de talents. Les études sur les bactéries qui prolifèrent dans les barbes masculines, les blagues de nos téléspectateurs et notre micro-trottoir sur les hommes et les femmes nous disent que nous avons encore tant à partager. Alors, à bientôt!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
John Lyndon, en votre compagnie, place à présent au dossier du jour. Et on commence par le Niger, qui est à quelques jours du second tour de la présidentielle. Lors du premier tour, les 21 et 22 février dernier, de nombreux bureaux de vote avaient ouvert avec de grands retards, suscitant la colère de certains électeurs. La proclamation des résultats avait en outre posé quelques problèmes. Les imperfections ont-elles été corrigées pour ce deuxième tour? Bagassi Koura, notre envoyé spécial à Niamey, s'est entretenu avec Maître Oumarou Sanda Kadri. Il est premier vice-président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante.
Comme vous savez, conformément à notre chronogramme, les élections présidentielles deuxième tour auront lieu le 20 mars. Donc, dès la fin du premier tour, nous avons commencé les préparatifs. Actuellement, nous sommes en train d'acheminer tout le matériel électoral vers les régions et des régions vers les communes pour que, à la veille des élections, que les bureaux de vote soient dotés de tout le matériel électoral.
On sait qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes lors du premier tour, notamment concernant les retards. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens?
Nous avons très tôt reconnu qu'il y a eu des dysfonctionnements par rapport au premier tour. C'est pour ça que nous avons pris les dispositions pour pallier à ces insuffisances, en commençant par faire un atelier qui a regroupé l'ensemble des présidents des régions ainsi que nos partenaires techniques pour faire le diagnostic des raisons de ce dysfonctionnement-là. Nous avons identifié à quel niveau nous avons eu ces problèmes et très tôt nous avons pris en charge pour éviter de répéter les mêmes erreurs.
Donc vous promettez qu'il n'y aura pas de retard, en tout cas pas au niveau qu'on a vu lors du premier tour?
Je souhaite qu'il n'y ait pas de retard et nous faisons tout pour qu'un retard ne soit accusé par rapport à nos préparatifs. Je pense que nous sommes pris très tôt cette fois-ci. Et nous pensons qu'il n'y aura pas de retard prochainement.
Et concernant la question du site qui publiait les résultats, est-ce qu'il y aura des changements à ce niveau?
Le site est toujours actif, comme vous pouvez le constater, puisque toutes les informations sont actuellement sur le site. Et nous allons maintenir cette dynamique pour faire en sorte que le site puisse renseigner le maximum d'internautes par rapport au processus électoral et à la diffusion des résultats.
Maître Oumarou Sanda Kadri, premier vice-président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur l'attaque terroriste de Grand Bassam, inédite en Côte d'Ivoire. ACMI revendique la tuerie qui s'ajoute à celle de Bamako et Ouagadougou. En moins de 4 mois, l'Afrique de l'Ouest voit rouge. Faut-il élargir le G5 dans la lutte antiterroriste? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Lors de la troisième conférence mondiale des jeunes parlementaires hier à Lusaka, l'Union interparlementaire a lancé le rapport sur l'état de la participation des jeunes dans les parlements, soulignant un taux extrêmement faible dans la plupart des pays. Ainsi, lors de l'Assemblée de l'Union interparlementaire du 19 au 23 mars, des parlementaires du monde entier se réuniront pour tenter de trouver des solutions visant à remédier au faible taux de participation électorale des jeunes. Il faut rajeunir la démocratie en plaçant les jeunes au cœur même du processus politique, estime l'Union interparlementaire, qui propose des quotas comme pour les femmes. Nathalie Barge a joint à Lusaka en Zambie le secrétaire général de l'Union interparlementaire, Martin Chumdong.
Nous avons constaté qu'il y a un paradoxe au moment où le gros de la population mondiale est constitué de jeunes. Au niveau de la représentation politique, il y a beaucoup qui laissent à désirer. Et donc, il y a sous-représentation des jeunes dans la vie des parlements à travers le monde. Et cela est relevé dans toutes les régions du monde. Nous constatons qu'il y a une représentation des jeunes de moins de 30 ans qui s'élève à 1,9% de l'ensemble des parlements, c'est-à-dire des 45 000 parlementaires qui sont dans le monde.
D'où votre recommandation qu'il faut rajeunir la démocratie et vous pointez du doigt notamment la désillusion et le désintérêt des jeunes par rapport à la politique.
Oui, effectivement, il y a des raisons pour cela. Les jeunes estiment que les institutions de gouvernance ne répondent plus à leurs attentes et que leur voix n'est plus écoutée, que les décisions qui sont prises ne répondent pas aux intérêts des jeunes. Donc c'est pour cela qu'il y a des affections de la part des jeunes quand il s'agit de la vie politique normale. Cela, il faut changer. Je pense que c'est un problème qu'il convient de régler de façon urgente pour que les jeunes ne puissent pas se détourner de la vie politique normale pour s'engager dans des actions répréhensibles. Donc nous recommandons plusieurs mesures, notamment l'instauration des quotas, des sièges réservés aux jeunes dans les parlements. Et cette expérience, ce mécanisme a fait ses preuves en ce qui concerne la participation des femmes. Et nous pensons que cela peut jouer aussi au niveau de la représentation de la jeunesse. Et puis nous avons constaté qu'il y avait une restriction pour ce qui est de l'âge auquel les jeunes peuvent prétendre aux fonctions électives. Dans plusieurs pays, cet âge est très élevé, ce qui ne permet pas à la jeune génération de briguer des postes au niveau du Parlement. Donc nous avons proposé qu'il y ait une harmonisation entre l'âge de vote, c'est-à-dire l'âge auquel les jeunes peuvent voter, et l'âge auquel ils peuvent se présenter aux fonctions électives. Et nous allons plus loin, on dit que nous disons qu'il faut quand même baisser ces âges pour qu'on ait plus de jeunes dans les institutions de gouvernance.
Le secrétaire général de l'Union interparlementaire, Martin Chumdong, joint à Lusaka en Zambie par Nathalie Barge. La lutte contre l'insécurité alimentaire au centre d'une réunion des agences onusiennes et de gouvernements africains à Harare. À l'ordre du jour, la prévention des pertes agricoles chez les petits producteurs. Les précisions de Lionel Gaïma.
Un tiers de la production vivrière est perdue du fait de mauvaises conditions de stockage, explique Stéphanie Galatova de la FAO. Les participants à la rencontre de Harare doivent parvenir à établir des priorités en vue de réduire ces pertes, a-t-elle expliqué.
Nous ne visons pas tous les produits, nous ciblons ceux qui ont été priorisés par les gouvernements. Dans de nombreux pays d'Afrique australe, la priorité est le maïs. Nous menons également des études sur les produits horticoles, les fruits et légumes, quelques études sur le lait. En Afrique de l'Ouest, il y a un intérêt particulier pour la réduction des pertes de poissons.
La sécheresse résultant du phénomène climatique El Niño affecte une bonne partie de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique australe. Cette semaine, le Zimbabwe a annoncé qu'environ 4 millions de personnes ont besoin d'assistance alimentaire du fait de ces situations, alors que l'UNICEF dit rechercher au moins 21 millions de dollars pour prévenir la malnutrition dans ce pays. Les agriculteurs du marché Mbare Musika d'Harare vendent un peu de tout, maïs, bananes, tomates, etc., des produits qui souvent pourrissent, avant de trouver des acheteurs, déplore-t-il. Grace Chikanwa, productrice de tomates, dit qu'en plus des insectes qui s'attaquent à sa récolte, elle a du mal à assurer le transport de ses tomates vers le marché.
Lorsque j'arrive et que le prix des tomates est élevé, je peux sûrement gagner de l'argent. Mais le marché n'a pas de prix fixe pour les tomates.
Robert Delve est conseiller technique au Fonds international de développement agricole, FIDA. À son avis, il faut enseigner aux agriculteurs africains à ajouter de la valeur à leurs produits à travers des méthodes de transformation minimisant les pertes. Toutefois, les prêts FIDA à bas taux d'intérêt ont diminué, a-t-il déploré. Malheureusement, les fonds FIDA proviennent des pays donateurs, membres du FIDA. Ces pays font face à de nombreux défis dans la perception qu'ont les gouvernements de l'aide au développement international ou, ainsi que vous le voyez dans la presse, les exigences de financement du défi de la migration en Europe.
Horreur dans un hôpital public de la ville de Douala au Cameroun. Une femme éventre une autre décédée en couche. Elle tentait de sauver les jumeaux de la défunte, dit-elle. Une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux a suscité l'indignation et la colère des Camerounais qui ont assiégé ce centre hospitalier pour crier à la négligence, ce que réfute le gouvernement camerounais. Le reportage de notre correspondante Idé Sandré Nyamga.
Les proches de la défunte font savoir que tout est allé très vite ce samedi matin-là. Moukoum Hilaire, le compagnon de la défunte, et maman Beya, sa mère, expliquent.
Le matin, vers 6h, comme ça, c'est elle-même qui sort, il voit le voisin, il prend le téléphone, il appelle sa mère. Comme maman, ça ne donne pas, viens. Là-bas, on est porté directement que la cantine. D'abord, on est parti à l'urgence. On est comme par la morgue. Et il est mort. On arrive à la morgue, le morgue dit que non, on part à la maternité.
Quand on arrive donc à la maternité, ils nous disent qu'allez à la morgue. Le morgue nous envoie à la maternité, nous dit que non. Les enfants bougent dans le ventre. Le problème, c'est que, ils disent que non, le médecin est occupé, il est en salle. Ils ont fermé la porte. Nous étions là. Une soeur du village, elle a pris donc la lame. Elle a dit que je ne peux pas sortir que les enfants se meurent. L'âme de la pharmacie, elle a opéré en sortant les enfants. Les enfants étaient déjà partis.
L'affaire prend une tournure. Le gouvernement fait une sortie pour recadrer les choses. Le ministre camerounais de la Santé publique, André Mamafouda, donne sa version des faits et condamne l'acte de la chirurgienne de circonstance.
Comment ils peuvent imaginer que plus de 4 heures de temps après le décès, qu'un fœtus puisse encore être vivant? On ne sait pas ce qui a traversé dans la tête d'une dame qui accompagnait ce couple avec un instrument tranchant. On parle de l'âme de bistouri qui a décidé d'ouvrir le ventre. Il n'y a pas eu de négligence médicale particulière. Il y a seulement un acte horrible à la fin. Parce que la dame qui a ouvert le ventre n'a pas le droit de disséquer quelqu'un. Elle n'avait pas cette qualité.
Dame Teke Rose a été interpellée ainsi que le morguier, une infirmière et le médecin. Ils ont été tous gardés à vue. Mais l'opinion camerounaise est de plus en plus en colère entre appel à la démission du ministre et sanction du personnel médical. Tout y passe. Le gouvernement adresse ses condoléances à la famille éprouvée et dans la foulée, un collectif d'avocats s'est constitué pour soutenir le morguier et la chirurgienne de circonstance Rose qui sont accusés de profanation de corps. Par la suite, les personnes interpellées sont remises en liberté, mais elles comparaîtront libres. Idé Sandré Nyamga, Douala, Cameroun, Voix de l'Amérique.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a donc annoncé son choix pour le 9e juge manquant à la Cour suprême. Il s'agit de Merrick Garland qui devrait, s'il est confirmé, remplacer le juge conservateur Antonin Scalia, décédé en février dernier. Qui est le juge Garland et comment va réagir l'opposition républicaine? Des questions que Jacques Aristide a posées au docteur Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
Le juge Garland est un ancien assistant au juge William Brennan. C'est très intéressant parce que Brennan était un juge à la Cour suprême appointé par le président Eisenhower pendant les années 50. Et Eisenhower, il a dit qu'il a fait 2 erreurs pendant sa présidence. Et puis il a cité que c'était William Brennan qui était un de ses plus grands erreurs. Pendant sa présidence. Mais Garland, depuis presque 20 ans, dans la cour d'appel pour la circonscription de la capitale des États-Unis, District of Columbia, il est considéré un modéré, pas vraiment un conservateur, mais non plus un libéral. Ce juge est né à Chicago, il connaît le président depuis longtemps, il a 63 ans.
Les républicains qui dominent le Congrès ont promis de s'opposer à toute nomination qui doit attendre, selon eux, l'arrivée du prochain président en janvier prochain. Il appartient maintenant au Sénat d'approuver ou non le choix du juge Merrick Garland. Faut-il donc s'attendre à un bras de fer entre le président Obama et les républicains?
La situation qui est difficile pour les républicains, c'est qu'il a écrit des opinions pour la majorité à la Cour d'appel à la District of Columbia et aussi les opinions contre la majorité. Donc il y a un corps d'opinion à laquelle on peut faire référence pour peut-être décider où il est
Donc, c'est une guerre partisane. Et peut-être il est un peu à gauche, mais vraiment, pour le président Obama, c'est pas quelqu'un qui est un radical.
Le politologue américain Richard Conley, joint dans l'État américain de Floride. C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Anne Alberson à la console Zuber. Présentation Anne Alberson et John Lyndon. Ainsi va le monde aujourd'hui et on maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.